On est tellement habitué à avoir tout à la portée de la main, n'est-ce pas? On aime bien toucher l'interrupteur, hop, la lumière s'allume, ouvrir le robinet, l'eau coule, chaude, froide, hein, pour que tout le monde soit content. Mais dès qu'il y a quelque chose qui sort, entre guillemets, qui ne fonctionne pas ou qui pour un moment nous est enlevé, d'un coup, on se rend compte de la valeur de ce qui nous a été enlevé, n'est-ce pas? Jusque-là, on a négligé l'interrupteur, de temps en temps, on a mis un petit coup un peu trop fort. Là, d'un coup, on le caresse dans le sens du poil en disant, pourvu que je ne l'ai pas cassé. Hein? Il y a des choses, des fois, dans notre vie qui ont besoin de montrer une défaillance pour que finalement, on réalise l'importance. Et c'est vrai que quand tout va bien dans notre vie, on ne réalise pas forcément tout ce qui est mis en œuvre pour que tout aille bien. C'est au moment où les choses commencent un peu à ne pas aller que là, les choses nous interpellent. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée avec ce titre, Rendez-vous avec Dieu, rendez-vous à Dieu. Rendez-vous avec Dieu, c'est cette première pensée dans laquelle où le Seigneur, en réalité, nous donne des moments, des lieux, des instants de rendez-vous. Merci. C'est Marcelin qui a tout perdu. C'est pas grave. Merci. Des moments où le Seigneur nous amène à un endroit bien précis, à un moment bien précis, il nous sort de nos habitudes, de nos contextes, de nos obligations. Et ce soir, j'aimerais justement voir avec vous, première chose, rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de mettre en route pour avoir un rendez-vous avec nous? On est tellement pris, on a nos agendas qui sont pleins. On se dit, Seigneur, voilà, tel jour je peux pas, tel jour je peux pas, telle heure je ne peux pas, jusqu'au moment où Dieu nous arrête. Et nous dit, maintenant, tu peux. D'un coup, j'ai effacé ton agenda, tout est bousculé. Et après, en réalité, la suite, c'est rendez-vous à Dieu. Dieu nous amène à un moment à devoir nous rendre à l'évidence, nous rendre par rapport à nos pensées, nos projets, notre mentalité, notre vision des choses. Seigneur dit, non, tu dois te rendre. Ce n'est pas toi qui gères, c'est moi qui gère. Et quand ces deux choses se mettent en ligne, il y a quelque chose qui se produit. Tout dépend de comment nous, on prend les choses. Alors, j'aimerais partager avec vous un texte dans 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire que vous connaissez certainement. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 8. Le texte nous parle d'un homme qui s'appelle Naaman. Le texte dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman Naaman vient le reporter à son seigneur. En ces termes, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je le débarrasse d'un homme, un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. On fait une pause dans notre lecture, et on commence à réfléchir un peu à cette histoire où cet homme est un homme auquel, je dirais, tout réussit, tout va bien, même le texte nous dit « L'Éternel par lui ». par lui, l'Éternel. En effet, cet homme ne connaissait pas Dieu. Cet homme n'avait aucune relation avec Dieu. Alors ce texte nous dit que cet homme avait, Dieu lui avait accordé, c'était par lui que Dieu avait agi. En réalité, cet homme, il ne le savait pas encore, mais Dieu avait prévu un rendez-vous avec lui. Mais en même temps, cet homme était un instrument entre les mains de Dieu parce que Dieu voulait aussi passer un message à son peuple qui était rebelle, son peuple qui s'était détourné et de la volonté de Dieu, mais aussi des lois de Dieu. Et Naaman, à qui tout réussit, en réalité, a un problème, et le problème qui est le sien, dit le texte, il était lépreux. C'est une maladie particulière quand même. On pourrait se dire, c'est dommage pour un homme à qui tout réussit, pourquoi être touché ainsi? En réalité, ce que Dieu avait permis, ce n'était pas seulement que cet homme soit un instrument entre ses mains, mais que cet homme devienne en effet aussi son fils, son enfant. Et la manière de l'amener véritablement à ses pieds était par sa santé. Parfois, il y a des personnes à qui tout réussit, sauf un point. On se dit, mince, il est bon partout, sauf. Et parfois, ce défaut, nous, on le pointe du doigt, on se dit, mais si Dieu, c'était par là qu'il voulait parler au cœur. Et en réalité, comment Dieu va faire les choses, c'est que parmi ces personnes qui avaient été amenées captives, il y a une petite fille. Alors ça nous interpelle, ça nous touche. Moi, je me dis comment une petite fille qui est arrachée à sa famille, arrachée à son pays, aurait pu se dire, t'es malade, tant pis pour toi, t'avais qu'à me laisser chez moi. Mais on voit qu'elle n'est pas aigrie dans son cœur. Il n'y a pas d'amertume dans le cœur de cet enfant. Et en réalité, elle demeure encore attachée au Seigneur parce qu'on voit cette petite fille dire, en effet, témoigner, si mon Seigneur pouvait rencontrer l'homme de Dieu, certainement il serait débarrassé. Il n'y a pas de doute. Cela me fait penser à un témoignage d'une église qui avait pendant un certain temps entamé un temps de prière parce qu'il y avait un problème, il y avait un problème de sécheresse, il ne pleuvait plus. Il ne pleuvait plus et depuis un certain temps, les choses étaient devenues encore plus tragiques parce que n'ayant plus d'eau, les plantes, il n'y a plus rien à manger, les animaux commencent à souffrir et tout. Et l'église finalement avait décidé de faire un temps de jeûne et prière. Et à ce temps de jeûne et prière, la petite est arrivée avec un parapluie. Et à l'entrée, quelqu'un de bienveillant, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie ici? Elle dit, bon, je pensais qu'on devait prier pour qu'il pleuve. La simplicité, la vérité dans le cœur d'un enfant qui s'attend quelque chose de la part de Dieu. Cet enfant est dit, certainement, celui-ci le débarrasserait de la lèpre. Il n'y a pas de doute. Il ne dit pas peut-être. Non, c'est certain. Et donc, suite à cette parole, qui est une parole quand même où il n'y a pas de doute, et quand vous savez, quand on annonce l'évangile sans doute, mais Dieu abat les doutes qu'il y a dans les cœurs de ceux qui entendent la parole. C'est comme si quelque chose vient terrasser tous les doutes qui pouvaient être là-dedans. Et Dieu dit, il y a une espérance, il y a une possibilité. Et forcément, Naaman, il se dit, mais s'il y a une possibilité, il faut que je la saisisse. Et donc, il va voir le roi, il lui explique la situation. Le roi lui dit, pas de souci, moi, je trouve que tu es quelqu'un de bien. Je vais te faire un joli courrier, je t'envoie auprès du roi là-bas. Il va se débrouiller, il va trouver le moyen. Alors imaginez que d'un coup, Seigneur nous mette dans telle situation, on lui dit, tu vois, je t'envoie quelqu'un, il faut que tu le guérisses. Quelle est notre réaction à la lecture du texte? La lecture du roi fut, il cherche des histoires, il veut en réalité entamer encore une fois une querelle, il veut y avoir des problèmes. Pourquoi cet homme réagit comme ça? Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Et forcément, quand notre cœur n'est pas accroché au Seigneur, quel qu'il soit le courrier qu'on reçoit, quel qu'il soit, excusez-moi, le texte qu'on reçoit sous les yeux, on le prend comme une forme d'attaque personnelle. Il y a des fois des choses qui nous attaquent, non? Il y a des choses des fois qui nous embêtent, qui nous chagrinent. Seigneur, ah, pourquoi je dois passer par là? Eh bien, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu derrière. Oui, mais c'est un problème au démarrage. Oui, mais Dieu change le mal en bien. Non? Mais au départ, ça commence mal. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'avec le Seigneur, ça finit toujours bien. Non? Qui a déjà essayé, goûté qu'avec Dieu, ça commence mal, mais ça finit bien? Mais au départ, quand ça commence mal, on se dit, Seigneur, ça commence quand même mal. Si une fois ça pouvait commencer bien, ça serait pas mal. Non? Pourquoi, Seigneur, tu... Mais vous savez, il y a des situations où Dieu veut nous montrer que nous sommes dépendants de lui. Et que l'on veuille ou pas, frères et sœurs, combien c'est merveilleux d'être dépendant de Dieu. De se faire tout petit et dire, Seigneur, moi, voilà, tu vois ce courrier? Moi, je ne sais pas, peut-être je pourrais mal interpréter, mais je sais que toi, tu vas le transformer en bonne chose. Tu vas faire de manière que ce soit une bonne chose pour moi, ce courrier. Seigneur, tu vois, telle situation, Seigneur. Moi, il y a quelques années en arrière, j'étais tellement pris par le travail que je ne prenais pas forcément soin de me soigner, de faire attention à ma santé. Et il y a un moment où, un jour, j'arrive chez le médecin et le médecin me dit, Monsieur Nsinga, voilà, il va falloir vous arrêter parce que vous avez un problème de diabète, hypertension, apnée du sommeil. Il m'a fait une liste. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi ça, Seigneur? Tu vois, il y a ça à faire, il y a ça à faire. C'est pas le moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, parfois Dieu nous met un gros coup de frein et nous dit, maintenant tu vas le prendre le temps. J'ai dit, ok, Seigneur. Et suite à cela, ma femme, elle avait déjà eu au cœur d'appeler un chirurgien, me fixer un rendez-vous avec une nutritionniste. Il dit, tu vas voir, tu vas faire. Donc, je dis, ok, je l'appelle, je dis, tu sais, je dois faire. C'est déjà pris le rendez-vous. Ah bon? C'est bien. Elle est bien. Je la garde. Et en allant voir le médecin, en allant voir tous ces médecins qui avaient fait le suivi, moi, je dis au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je passe par là, par l'opération, moi, je le fais, mais il y a une condition. Il y a une condition, c'est que, voilà, tu m'envoies là, moi je veux bien, mais je m'attends à toi, moi. Ce n'est pas le médecin qui va me guérir, lui va me soigner, mais toi tu vas me guérir. Et quand l'opération est venue, ça a été pas facile. La première nuit a été même très compliquée. Et au bout d'un moment, moi j'ai dit, Seigneur, là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. L'église a prié, les frères sont priés, moi j'ai prié, tu as fait le feu vert jusque-là, maintenant tu te débrouilles, tu me remets debout comme tu veux. Moi maintenant je m'endors tranquille et tu règles le problème. Et vous savez, à ce moment-là, pour moi c'était dire, Seigneur, tu as fait des promesses. Et quand tu fais des promesses, tu es fidèle. Et je crois que si ce n'était pas ta volonté, tu aurais empêché. Mais vu que tu as permis, Seigneur, tu vas changer le mal en bien. Et le jour d'après, finalement, j'ai demandé à qu'on m'enlève les perfs, qu'on m'enlève tout ce qu'on avait mis pour traiter la douleur. Mais monsieur, vous ne pouvez pas vous lever, tu parles. J'étais en train déjà de me promener dans les couloirs. Il n'y avait pas moyen, je suis têtu. Et bon, c'est la partie calabraise. Et donc, je ne m'étais pas rendu compte de comment les choses allaient aussi vite. Et quand j'ai eu l'entretien avec la nutritionniste et où il y avait d'autres personnes opérées même avant moi, et que je voyais dans quelle manière où ils arrivaient, comme ils étaient, excusez-moi, mal en point, c'est là que j'ai réalisé tout ce que Dieu avait déjà mis en acte pour moi. Alors je me suis mis assis dans un coin, j'ai pu bouger, j'ai pu rien dire. J'ai dit parce que je ne voudrais pas les choquer, je ne voudrais pas les faire sentir mal à l'aise, Seigneur, tu m'as fait grâce. Alors j'ai commencé à prier pour eux et j'ai dit, Seigneur, fais-leur grâce. Parce que tu es un Dieu de grâce. Et vous savez, parfois on a besoin de passer par ce genre de situation pour se dire, Seigneur, avec toi, nous sommes au bénéfice de la grâce. Le roi agira en laissant cours à sa colère, en laissant cours à ses sentiments personnels, en comptant davantage sur ses incapacités que sur la grandeur de Dieu. Et là, le prophète qui entendra comment les choses se sont passées appellera le roi pour lui dire, écoutons, voilà. Et pour qu'ils reconnaissent. Ce n'était pas tellement le besoin qu'ils reconnaissent qu'il y a un prophète, mais qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Et donc le roi, il est content. Lui, il se libère du problème. Il dit maintenant, si ça ne marche pas, ce n'est plus ma faute, c'est la sienne. Non ? Et vous savez, parfois, Dieu nous place dans ce contexte. Vous vous rappelez un moment quand Jésus demande à ses disciples de donner à manger à la foule. Seigneur, mais comment tu veux qu'on fasse? On n'a pas grand-chose. Moi, je voudrais vous dire, il y a bien des moments où Dieu nous demande de mettre le peu que nous avons. À la femme qui vient crier auprès du prophète, « Ah, ils veulent prendre mes enfants, qu'est-ce que tu as chez toi ?» Rien, sauf une petite fiole d'huile. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous demande de mettre ce qu'on a. Alors, je ne sais pas ce que vous avez. Mettez-le. Parce que Dieu va rajouter ce qui vous manque. Et à un certain moment, l'homme de Dieu reçoit la visite de Naaman. On continue notre lecture. Le texte nous dit à partir du verset 9, Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amna, le Parpar, ne valent plus mieux que tous les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur ?» Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, devant qui je me tiens et vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est... Alors, je n'ai pas la même traduction. Puisque c'est non, permets donc de la terre à ton serviteur en charge 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » En lisant ce texte, il y a quelque chose qui nous amène quand même à nous dire que parfois, on est un peu comme Naaman. Naaman, en réalité, il arrive avec une idée bien précise dans sa tête. Et il va voir l'homme de Dieu, déjà en se disant, voilà comment il va faire. Et c'est vrai que nous aussi, on a parfois cette tentation, cette idée, ce bon réflexe, humain, certes, sage, pas forcément, de vouloir dire à Dieu comment faire les choses. Et puisque les choses ne se font pas comme nous, on les veut, on se dit, il y a une erreur quelque part. Et Naaman, en réalité, se trouve face à quelqu'un qui, en réalité, est conduit par Dieu et il amènera Naaman à devoir capituler, se rendre à Dieu. Est-ce qu'il y a encore des choses dans notre vie dont on a besoin, en réalité, de capituler ? Notre caractère, parfois nos origines. Quelqu'un disait, je suis fier de l'être. Mais humble de l'être quand même, hein ? Ou voire même, je suis humble et fier de l'être. On peut aussi. La réalité, c'est qu'il y a des choses dans lesquelles on a posé nos pieds dedans, Et on pense que c'est comme ça. Comme ça. Je me rappelle d'une jeune femme à qui j'avais dû rendre visite. Et dans la discussion, elle me disait, voilà, moi, mon père m'a enseigné à être quelqu'un qui est colérique, en colère. Moi, quand ça va pas, je le dis, je le crie. Je dis, ok, très bien. Et tu as résolu quoi? Tu as résolu quoi? J'ai dit, tu sais, il y a un moment où peut-être ta méthode ne marche pas. Et la preuve, elle est là, elle est évidente devant toi. Et si tu t'approchais autrement devant Dieu? Et quand elle l'a fait, ben Dieu a posé sa main sur elle. Elle a reconnu que la méthode n'était pas forcément la bonne. La méthode que Dieu attend de nous est celle qui nous amène dans une démarche d'humilité. Et Naaman, là, il n'est pas dans cette démarche. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont pas dans la même démarche. Naaman voit dans l'homme de Dieu peut-être un guérisseur. On s'attend quelque chose de quelqu'un qui agisse de cette manière parce que lui, comme il porte le nom homme de Dieu, forcément, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un homme de Dieu. Et Naaman, lui, dans sa tête, il s'était dit, voilà, il va faire comme ça, il va venir lui-même vers moi, il va élever les mains au ciel, je ne sais pas, les yeux, il va... Rien du tout. Ce qui lui est dit, tu vas te laver cette fois et tu seras pur. La réaction de Naaman, elle est directe. Parce que quand même, Naaman, c'est quelqu'un qui a autorité, qui a un pouvoir, qui a une place de responsabilité. Il aime donner des ordres, mais il n'aime pas le recevoir. Et c'est là que ceux qui avaient l'habitude de recevoir des ordres seront avoir cette manière de l'approcher. Et ce qui m'a interpellé, c'est... le fait qu'il lui pose la question s'il t'avait demandé quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de voir quand on dit à quelqu'un c'est facile, il n'y croit pas. Il a besoin que ça soit difficile. Si c'est pas difficile, c'est pas bon. Mais pourquoi faire difficile quand on peut faire simple? Comment est-il possible que dire à Jésus « rentre dans mon cœur » puisse tout changer? Moi, je pensais qu'il fallait, par mes efforts, non, et le jour où je serai changé, mais le jour où tu seras changé, tu seras déjà mort. Ah bon? Ben oui, parce qu'il y aura toujours un défaut qui viendra derrière. Et même quand tu seras mort avec un défaut. Et quel est le défaut? C'est que tu es mort. Ben oui. Sans atteindre la perfection c'est en Christ. La perfection c'est Christ qui nous l'accorde à un moment bienvenu. Néanmoins, il nous demande de faire nous notre part. Et là, dans ce cas, il demande à Naaman de faire sa part. Va te laver. C'est un acte d'obéissance. C'est vrai que quand Dieu nous demande des choses simples, on a du mal. Est-ce que vous le croyez? Quand on l'a fait, après on est content, on se dit « Seigneur, j'ai bien fait de le faire. Hein. » Mais au moment, à l'instant, on se dit « Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire là? C'est trop simple, moi je pensais peut-être faire autrement. » Mais non, fais simple, fais simple. Et Naaman, finalement, il écoutera ces hommes qui étaient avec lui, qui font preuve beaucoup d'amour pour lui, beaucoup de respect, en lui donnant un bon conseil. Parfois, Dieu peut demander des choses simples à ceux qui sont autour de nous, sachant être de bons conseils. Et le bon conseil, c'est toujours d'obéir à Dieu. On pourrait être tenté de donner notre petit grain de sel. Vous savez, on a toujours un peu une épice particulière à pouvoir mettre dans la soupe, elle est meilleure. Si tu mets ça, ça marche. Souvent, ça sent pire. Alors que ces hommes, ils vont lui dire, fais ce qu'il t'a dit, et sois pur. Naaman, finalement, va capituler, va se rendre à Dieu, va accepter d'obéir. Et parce qu'il a obéi, il est allé jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit que quand il ressortit de l'eau, il fut pur. Incroyable, hein? Incroyable, sortir de l'eau et se dire finalement... la seule chose qui gâchait ma vie, elle n'est plus. Là, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui me gâchait la vie n'est plus là. Et on comprend que finalement, Naaman, il y a une révolution au fond de son cœur, au point qu'il n'est plus dans cette même démarche qu'il pouvait avoir avant, où il prétendait des choses. Il est là et il demande humblement, il est prêt à faire un sacrifice, à donner quelque chose. Il est prêt même à charger de la terre parce qu'il ne veut plus offrir un sacrifice sur une terre qui est souillée puisque son peuple s'est détourné de Dieu. Et même il réfléchit plus loin et dit, ma place de responsabilité, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et l'homme de Dieu lui dit, va en paix. Dieu sait comment instaurer la paix dans notre cœur. Parfois, vous savez, Dieu peut nous amener dans des circonstances à voir des personnes qu'on ne s'attendrait pas. Un frère me racontait un témoignage. Il a été appelé par un hôpital sur Paris. Et l'hôpital, il l'appelait pour dire, il y a une personne qui souhaiterait voir un pasteur. Est-ce que vous pouvez venir? Donc, ce frère se déplace sans savoir qui était. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il est surpris parce que la personne qui était dans cette chambre, c'était cette sœur très bien connue, sœur Emmanuelle, qui était très bien connue. Et il dit, mais je ne comprends pas, vous demandez un pasteur. Il dit, vous savez, moi quand je veux prier avec quelqu'un, c'est avec des évangéliques que je veux prier. Parce que je sais qu'ils prient Dieu. Et en réalité, cette femme, elle avait vraiment donné son cœur au Seigneur. Et ils ont eu toute une discussion par rapport aussi au contexte dans lequel elle travaillait. Et eux, ils disaient, vous savez, je ne suis pas bien vu par les autorités religieuses parce que je leur ai dit certaines choses et ça ne leur plaît pas. Elle avait pris des positions. Néanmoins, elle disait, si j'abandonne ce que je suis en train de faire, il y a plein de gens qui risqueraient de ne plus avoir... Donc, je compte sur Dieu. Et c'est vrai que parfois, il y a des situations où, quand Dieu nous le dit, on doit rester. Mais si Dieu nous dit ne reste pas, il faut être capable aussi de partir. Faut pas mélanger tout et dire ah, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et dans le cas de Naaman, la volonté qui était la sienne, c'était de ne plus se détourner de celui avec qui il avait eu un rendez-vous. Je ne sais pas comment ça a continué l'histoire pour cette petite fille qui était dans sa maison. Mais je pense qu'elle est passée de statut d'esclave, peut-être à statut de fille adoptée, puisque dans la vie de Naaman, tout avait changé. Frères et sœurs, je ne sais pas si ce soir, quelqu'un d'entre nous est un peu dans une forme de lutte avec Dieu, en disant à Dieu, oui, mais tu devrais faire ceci, j'attendais cela. Et peut-être que le Seigneur nous dit, mais si tu écoutais ce que je te dis, ça irait plus vite. Si tu obéissais. Si tu laissais te purifier, te changer, te transformer. Il y a des choses parfois qui se passent tout simplement dans l'obéissance. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Et il ne lui dira pas de le faire une fois, deux fois. Vous savez, quand vous êtes obligé de vous laver une fois, deux fois. Qui a été enfant déjà? Ça vous est arrivé qu'un fois, vos parents vous aient dit, va te laver. Une fois. Retourne te laver, t'es pas propre. Deux fois. Non, tu sens pas bien le propre. Trois fois, quatre fois, cinq fois. Dis, c'est pas possible, à force, j'aurai plus de peau. Naaman, peut-être, il a dû se dire plein de choses dans sa tête. Mais vous savez, à force d'obéir, sa démarche a changé. Ces sept fois ont été les sept fois qu'il avait besoin pour véritablement donner son cœur au Seigneur. Parfois, on témoigne à des personnes, ils font une action une première fois, mais il en reste encore six pour vraiment être transformés. Il y a des actions dans leur vie qui doivent se passer. Il y a la repentance, oui, ok, très bien. Et après la repentance, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a après la repentance? Déjà, c'est une étape difficile, la repentance. Et vous dites, ah, mais l'eau, elle n'est pas à la bonne température, c'est dur d'y rentrer. Et moi, je pensais que je pouvais faire autrement. Non, c'est pas la repentance. Et après la repentance, c'est quoi? Ah, mais c'est l'obéissance. Mais le Seigneur te dit de t'engager par les eaux du baptême. Ah, encore une fois dans l'eau. Ah oui. Et après, qu'est-ce que Dieu te demandera? C'est le baptême du Saint-Esprit. Encore une fois dans l'eau. Oui, mais c'est l'eau spirituelle, hein, c'est autre chose. C'est une immersion totale à dire, Seigneur, ok, très bien. Et après, qu'est-ce que Dieu te demande? Maintenant, Seigneur, te demande de marcher dans la sanctification. Ah, Seigneur. Et vous savez, à force de se laver, tout ce qui ne va pas dans notre vie part. Part. Et la sanctification, et après, il y a le service, il y a l'obéissance, être un disciple. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Peut-être nous sommes à quelle phase? Phase 2, phase 3, phase 4? 5, 6, mais le Seigneur nous veut tous à la phase 7, non? Où on sort, on se dit, Seigneur, tu as transformé ma vie. Et là, ce n'est plus Naaman qui parle, c'est Dieu qui parle à Naaman. Et tout ce que Naaman veut, c'est que Dieu soit heureux. Vous savez, je me rends compte que souvent on prie Dieu pour qu'il nous rende heureux. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour cela. Seigneur... Et combien de fois on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que toi tu sois heureux? Un jour, un enfant, il m'a fait un dessin. Ça m'a bouleversé. Il a fait un dessin, il a écouté le message et pendant le message, il a dessiné une croix. Il a dessiné, pour lui, c'était Jésus à la croix. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il était souriant. Et donc, il est venu, il m'a ramené ce dessin. Il m'a dit, t'as vu, j'ai fait un beau dessin, c'est pour toi. Ah bon? Et je lui ai dit, mais explique-moi, pourquoi Jésus a un sourire sur... Parce qu'il était heureux de mourir pour moi. Il dit, Seigneur, il a tout compris. Seigneur, il a tout compris. Vous savez, des fois, Dieu nous ramène à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et lui s'occupera de nous. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis sincèrement. Il ne nous laissera jamais tomber. Naaman, ce n'était pas un homme qui avait marché avec Dieu, mais c'était un homme que Dieu voulait. Et je crois que Dieu nous veut tous, chacun d'entre nous. Alors peut-être qu'encore on a des pas à faire avec le Seigneur, mais n'ayons pas peur de, excusez-moi, de tout mettre dans l'eau. Et dire, Seigneur, je renonce à tout, je te donne tout. Naaman, si la parole de Dieu aurait été de quitter son poste, ben, il l'aurait fait. Peut-être que le Seigneur nous demande de quitter des choses dans notre vie. Ça ne doit pas être pris comme un sacrifice, mais comme un honneur de dire, Seigneur, je vais t'obéir et toi, tu me laisseras pas tomber. Tu me donneras mieux, Seigneur. Tu me donneras mieux, Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Naaman repartit, pas seulement en ayant été lavé, purifié, sanctifié, mais en ayant finalement dans son cœur ce qui est le plus important. Parce qu'il avait eu un rendez-vous avec Dieu et parce qu'il avait accepté de se rendre à Dieu. Je voudrais simplement ce soir vous dire que le fait qu'on se retrouve ensemble, c'est que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Amen. Combien c'est bon ce rendez-vous avec le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi le matin, je me dis chouette, ce soir, on se voit, on est ensemble. On loue le Seigneur, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire. Non? On attend ce moment et on se dit, Seigneur, et après, une fois que la réunion est finie, je ferme la porte, je dis, Seigneur, ça a été tellement vite. Ça a été tellement vite. Ok, Seigneur, on prépare la prochaine réunion, ça sera encore mieux. Et quand on sera dans le ciel, ça sera super parce qu'on ne se quittera plus. N'est-ce pas? Mais peut-être que ce soir, outre au fait d'être ensemble, d'avoir saisi ce rendez-vous qu'on a avec Dieu. Peut-être qu'il y a encore une étape dans notre vie où on doit se rendre à Dieu. Alors j'aimerais tout simplement qu'on ferme nos yeux. Chacun connaît son cœur. Et je suis certain que le Seigneur vous fait sentir ce qu'il souhaite de vous, ce qu'il attend de vous. Alors je voudrais vraiment vous encourager à arrêter de lui dire ce que vous voulez de lui. Mais simplement lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Je le fais. Je te le donne, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? L'obéissance. Seigneur, je veux être obéissant. Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, de changer? Alors change-moi, Seigneur. Seul, je ne peux pas y arriver. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on résiste à Dieu, malgré nous. Et ce serait le moment maintenant de nous rendre à Dieu. Seigneur, encore ce soir, ta parole nous invite, par l'histoire de Naaman, Seigneur, à analyser que nous aussi, on a tellement d'idées, de projets dans la tête et on voudrait que nos projets deviennent les tiens. Alors, Seigneur, que les tiens sont bien meilleurs. Seigneur, tu avais préparé d'avance, Seigneur, les paroles de cette petite fille, t'avais préparé d'avance, Seigneur, une réponse, t'avais préparé d'avance la manière de toucher le cœur de Naaman. Seigneur, parce que tu cherches des hommes et des femmes, Seigneur, tu cherches, Seigneur, ta créature, tu la cherches et tu voudrais qu'elle soit sauvée, Seigneur. Tu es venu nous chercher, Seigneur. On était loin de toi, Seigneur, et Seigneur, même si on faisait des bonnes choses, néanmoins, on était loin de toi et on était perdu. Mais tu as voulu nous sauver, tu as voulu, Seigneur, aussi transformer notre vie depuis l'intérieur. Seigneur, et quand une vie est transformée à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Seigneur, la première guérison que tu as faite dans le cœur de Naaman, c'est celle qui a produit la guérison de son corps. Encore ce soir, Seigneur, s'il y avait quelque chose dans laquelle on te résiste, Seigneur, pardon. Seigneur, aie patience avec nous. Aide-nous, Seigneur, à nous rendre à toi, en toute chose, Seigneur. Aide-nous à nous rendre à toi, Seigneur, Seigneur, dans nos pensées, dans nos projets, Seigneur. Aide-nous à nous rendre à toi, Seigneur, Seigneur, peut-être même dans la manière de te servir. Aide-nous à nous rendre à toi, Seigneur, et te dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, nous savons que quand nous nous rendons à toi, Seigneur, toi, tu es celui, Seigneur, qui nous relève. Encore ce soir, tu es celui qui guérit, Seigneur. Tu es encore ce soir celui qui purifie, Seigneur. L'homme de Dieu n'a pas touché Naaman. Mais Seigneur, ce que Naaman a fait, c'est ce que toi tu attendais de lui. Certainement ce soir encore, tu es ce Dieu qui guérit et qui indique au cœur ce qu'il y a à faire. Seigneur, et nous croyons que si nous obéissons à ta parole, Seigneur, forcément quelque chose se produit. Seigneur, nous voulons te prier pour nous qui sommes là, mais nous voulons te prier aussi pour ceux qui ne sont pas là ce soir, qui sont malades. Seigneur, nous voulons penser aussi au grand-père de Jessica. Seigneur, tu puisses poser ta main sur lui. Seigneur, nous voulons penser à ceux qui ont besoin d'être consolés. Nous pensons à notre sœur Anne-Marie, Seigneur. Tu puisses la consoler, Seigneur, du départ de sa cousine, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas ce qui a pu se produire dans le cœur de cette femme, Seigneur, jusqu'au dernier instant. Toi seul sais, Seigneur. Ce que nous savons, c'est que nous avons prié et nous t'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te faisons confiance, nous te laissons agir, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour notre sœur qui est là, notre sœur Hélène. Tu veux poser ta main sur elle. Seigneur, tu veux poser ta main encore sur Marc, Seigneur, s'il te plaît. Tu agis sur Jean-Luc, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour Daniel, Seigneur. Tu poses ta main. Seigneur, encore ta main, Seigneur, et cette main qui guérit, Seigneur. Seigneur, si moi j'oubliais quelqu'un, toi tu n'oublieras personne. Seigneur, mais encore ce soir, nous te disons, Seigneur, donne-nous la parole qui change tout dans notre cœur. Donne-nous la direction à prendre, Seigneur. Donne-nous ce qu'il faut, Seigneur. Dis-nous ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut, Seigneur, peut-être, Seigneur, déposer une fois pour toutes. Seigneur, et nous savons que, Seigneur, oui, la bénédiction est liée à l'obéissance. Seigneur, je te prie encore pour ces personnes qui sont à l'hôpital. Seigneur, à qui nous avons fait visite. Seigneur, tu puisses toucher leur cœur, leur vie. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Seigneur, nous te remettons encore tout le reste de cette soirée, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, je te prie que dans les heures qui suivent, Seigneur, tu puisses continuer à parler au cœur d'une manière particulière, intime, personnelle. Seigneur, et qu'à toi en revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.